Bonsoir à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir avec, pour s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football. Autour de la table, Alicia Dobby donc. Bonsoir Alicia.
Bonsoir Greg.
C'est anniversaire de bébé, mais il y a aussi un cadeau hein, pour tous les autres.
Hein. Et oui. Il n'y a pas que Léo qui aura des cadeaux aujourd'hui. Non. On vous fait gagner le maillot d'Arthur, joueur de la Fiorentina, puisque on finit un peu plus tôt ce soir, mais c'est pour la bonne cause. Demi-finale aller de la Coupe d'Italie, Fiorentina, Atalanta, Bergame. Et donc pour l'occasion, ce maillot qu'on vous fait gagner, l'ancien joueur du Barça ou encore de la Juve.
Bien sûr, ne le loupez pas. Et faites gaffe parce qu'il collectionne les maillots. Bonsoir Swan Borsellino.
Il va le piquer.
Ça va bien ?
Ça va, vous ?
Piquez pas ce maillot, c'est pour nos téléspectateurs.
Non, promis.
Bonsoir Pierre Maturana.
Bonsoir Greg.
Ça va bien, vous êtes en forme ?
Ça va pas mal. Ouais.
Allez, de l'autre côté, bonsoir Charlotte Langeret.
Bonsoir Greg.
Merci d'être là. Benoît Tremolinas, le back-to-back. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Greg.
Plaisir de vous accueillir toujours. Et bonsoir Raphaël Sebaoun.
Bonsoir Grégory Hacher.
Raphaël, vous êtes une petite heure 10 d'émission, 1h15, ça va aller ?
Ça va aller.
Gardez les yeux ouverts. Voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir ? PSG renoué avec la coupe, presque renoué avec sa coupe. Tant l'histoire du PSG est riche en Coupe de France, mais bon, ils l'ont pas gagné depuis un petit moment. Et ce soir, c'est une très belle équipe de Rennes. PSG Rennes, deuxième demi-finale de la Coupe de France. Qui va aller en finale face à Lyon ? Lyon qui s'est qualifié, ils ont battu Valenciennes hier. Score plutôt tranquille, mais beaucoup de polémiques autour de cette rencontre. Est-ce que c'est grâce à l'arbitrage ? Ça n'enlève rien à la joie, à la qualité, à l'émotion des Lyonnais. Mais on reviendra sur les péripéties de cette rencontre. Et on aura Ahmed Kantari, le coach valenciennois, qui sera avec nous. On parlera avec lui de ce qui s'est passé dans l'après-match et notamment de cette agression dont a été victime son adjoint. Et puis la petite lucarne et l'instant pilote. C'était histoire de mettre quand même Pierre-Antoine Damcourt un petit peu en valeur de temps en temps. Il faut le faire. Il a un tellement beau visage, on aura le temps de jouer bien évidemment et il y aura un zapping plus
bingo.
Allez, bingo là, après toute fête, principe généralité, on est là même en émission raccourcie. Il est 19h36, voici votre indispensable du soir, on part au Parc des Princes. Giovanni Castaldi, Tintin reporter, pas très loin de nos plateaux. Il est au Parc des Princes, limite à Paris 16, pas très loin de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Giovanni, merci d'être avec nous. Il ne pleut bonsoir, plus à Paris Greg. Pour le moment. Voilà la première info, elle est météo. Hein.
Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Effectivement, il fait beau, il y a un petit soleil. On n'a pas mis la veste pour une fois, je ne vais pas me geler pour vos duplex. Non, c'est agréable, les conditions sont idéales. Honnêtement, il y a tout pour un grand match de football.
Ce ne sont pas mes duplex, hein, Giovanni, ce sont les duplex que l'on fait pour nos téléspectateurs. Bien évidemment, je ne vous apprends pas la télévision, Giovanni, je ne me permettrai pas. Un mot sur les enjeux de ce soir, un bout de compo, est-ce qu'il va encore nous piéger, Luis Enrique, mon Dieu.
Écoutez, pour ce qui est de la compo, je vais me référer à mes confrères du journal L'Équipe pour le coup, parce que là sur celle-là, j'ai pas eu de contre-information. Donc dans les cages, Donnarumma sur le côté droit, Hakimi à gauche, Lucas Hernandez, la charnière centrale qui est lourde et peu rapide avec Milan Skriniar et Danilo Pereira devant la défense Ugarte, les relayeurs Warren, Zaïre Emery et Vitinha. Et puis devant, faudra surveiller de la position d'Ousmane Dembélé qui pourrait avoir un rôle un petit peu plus axial avec de la liberté. Et devant, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé, Kolo Muani bien sûr plus axe droit et sur le côté axe gauche, Kylian Mbappé. Pour les enjeux, c'est tout simple Greg, vous l'avez un peu dit en début d'émission, il y a une place en finale pour Rennes. Il y avait eu ce match fantastique au Parc des Princes, c'est une équipe qui embête très souvent les Parisiens. Julien Stéphan, la Coupe de France, le PSG, c'est une histoire qui est particulière, tout le monde se souvient de cette finale où il y avait eu Neymar, la gifle, le carton rouge de Kylian Mbappé. Et puis pour le PSG, c'est une compétition mythique, il y a déjà 14 titres, ça peut être le 15e, donc ça va être un match très important. Ils étaient en gestion, j'y étais au Vélodrome face à Marseille. À ne pas s'y tromper, le gros match de la semaine pour les Parisiens, c'est ce soir.
Merci Giovanni. 14 titres en Coupe de France. Et ça avait commencé pour les plus jeunes avant quand même l'ère QSI. Le PSG a toujours eu cet ADN avec la Coupe de France, Pierre Maturana. C'est vrai, on parle souvent du PSG. Alors pour les côtés extra-sportifs, ce genre de choses, la domination écrasante. Mais il y a quand même, il faudrait qu'on en parle un petit peu, une histoire d'amour entre le PSG et la Coupe de France.
Même, il y a une histoire aussi avec les coupes en général. Le PSG met bien aussi la Coupe de la Ligue à une époque. Et j'ai souvenir dans ma prime jeunesse que le PSG pouvait sauver des saisons calamiteuses bien par sûr. Un parcours en Coupe de France, quel que soit le parcours d'ailleurs. Mais souvent, à la fin, il pouvait y avoir une 7e, 9e, pire comme place au classement en championnat. Il y a eu bien pire, ouais. Et ça se sauvait parce qu'il y avait une Coupe de France, une épopée, quelque chose qui tournait bien en Coupe. Et Paris, pendant longtemps, avant le Qatari, il y a eu un peu cette réputation d'équipe de Coupe. Mmh. Il y a aussi les épopées en Coupe d'Europe, notamment. Voilà, donc c'est toujours bien de rappeler que le PSG a une longue histoire avant une belle histoire avant
le Qatar. Pour ça, je voulais qu'on en parle là, pour les plus jeunes, ceux qui connaissent l'ère Borrelli, hein, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tout début des années 80, quand le PSG n'avait encore que 10-15 ans, c'était un ado prépubère. Les bisous de Francis Borrelli à la pelouse du Parc des Princes après les victoires en coupe contre Saint-Etienne et Nantes. Benoît, un mot sur le match de ce soir. PSG-Rennes, est-ce que c'est une affiche équilibrée?
Non, sur le papier, non. Puisque le Paris Saint-Germain est en tête du championnat de Ligue 1 avec beaucoup d'avance. Oui, il faut se souvenir du match de Rennes au Paris Saint-Germain qu'ils ont beaucoup
avec ce pénalty de la dernière seconde. Exactement. Plus que litigieux. Hein.
Exactement, transformé par Ramos où Kylian Mbappé avait été une fois de plus remplacé. Non, le Paris Saint-Germain est largement favori, ils doivent gagner. Avec la manière ou pas, parce que c'est un match de Coupe de France. On sait très bien que les matchs de Coupe de France sont complètement différents de matchs de Ligue 1. On l'a vu hier soir, il se passe toujours beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, d'adrénaline, parce qu'on sait que à la fin du match, si on met le bus, on peut arriver au penalty. Donc c'est complètement différent. Mais malgré tout, le Paris Saint-Germain est favori.
Comment va jouer Rennes ce soir, Charlotte? Parce qu'on le dit, on le répète, et tous les soirs je le dirai, tant que la Coupe de France n'aura pas remis la prolongation, je continuerai à dénoncer ça. Comment on peut jouer Rennes? Est-ce que Rennes doit jouer aussi libéré qu'au Parc des Princes, avec une équipe sans doute différente? Peut-être qu'il y aura Bourigeaud et Terrier ce soir, alors que ce n'était pas le cas au Parc des Princes au coup d'envoi. Ou est-ce que ça doit attendre? Pas forcément bétonné, c'est pas l'ADN. C'est quoi votre point de vue?
Non, c'est pas l'ADN de Rennes. Même si face à Strasbourg, ça a été compliqué, mais finalement, je pense qu'ils doivent vite switcher. Et je trouve que face au PSG, ils sont souvent bons. Ils ont gagné l'année dernière au mois de mars. Là, ils ont fait une très belle performance avec le 1-1 avec Amine Gouiri qui était.
On a la compo probable hein, pendant que vous parlez. Hein, allez à vos côtés, à côté de vous.
Mais non, je pense que Rennes doit rester focus sur son jeu, tirer les enseignements face à Strasbourg. Strasbourg a été compact, etc. Mais non, Rennes doit rester focus sur eux. Et je le répète, mais ils jouent très bien face au Paris Saint-Germain. Ils élèvent un petit peu un cran. Donc, je ne suis jamais déçue des matchs de Rennes face au PSG.
Swan, on s'attend à quoi? Au Rennes contre Strasbourg, Qatar, ou au Rennes face au PSG? Et quel PSG? Est-ce qu'on sait ce soir quelles équipes on va avoir? Parce qu'il y a à boire et à manger hein, dans leur dernière rencontre. Hein.
Je pense que côté PSG, on sait un peu à quoi s'attendre. Giovanni le disait, c'est le gros match de la semaine.
C'est terrible quand même par rapport au Classico.
Ouais, mais il y a une telle. En fait, je pense que c'est même pas un manque de respect à l'Olympique de Marseille. Simplement, au vu de l'avance que le PSG a en championnat et de la maladie, je dirais, de ses poursuivants à pas arriver à faire des séries pour les rejoindre. Je pense que c'est assez logique qu'une demi-finale de Coupe de France contre Rennes soit le match de la semaine. Après, je suis suffisamment d'accord semaine après semaine avec Benoît pour ne pas être d'accord avec lui sur le côté déséquilibré profondément de ce match-là. Parce que moi, je pense avoir le droit d'être exigeant avec le Stade Rennais quand on voit vous parliez de la compo probable. Franchement, elle a une bonne gueule quand même.
Ah bah, ouais.
Giovanni parlait assez justement de la.
C'est Ludo hier qui.
De la charnière Danilo Skriniar notamment. Quand vous voyez le 4 offensif notamment de Rennes, vous avez quand même tout le droit de vous dire que cette équipe-là, elle est capable d'aller jouer et d'aller marquer. Donc oui, le PSG est favori là-dessus. Je suis obligé d'être d'accord avec Benoît. Mais pour le reste, je pense qu'on est en droit de se dire qu'on va avoir un bon match ce soir. Et que Rennes aurait raison d'être ambitieux. Et je lisais le journal ce matin, ou hier d'ailleurs, Mandanda est dans les buts, c'est pas pour rien non
bien
plus.
Sûr.
C'est quand même parce que le match. Alors j'ai assez regardé le match de l'OM avec Mandanda pour savoir que c'est pas une assurance touriste au pénalty. Mais pour le reste, c'est quand même une preuve que Rennes va venir avec des ambitions aussi.
Alors on revoit le dessin de Faro qui dessine pour nous pendant toute cette heure et quart. PSG Rennes, alors comme ça vous êtes plus riches que nous. Alors non, ils sont pas tout à fait plus riches, mais en tous les cas, ça prouve bien quand même qu'il devrait y avoir de l'ambition. Il y en a. Hein. Le Stade Rennais hier c'est Ludo qui disait qu'il devrait être top 4 du championnat vu ce qui a été mis.
Mais quand vous voyez l'effectif, voilà. Je suis désolé, je vous ai fait une infidélité hier, j'ai pas regardé. Mais
c'est
pas,
mal. Regardez Swan, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas?
Non.
Bah bien sûr.
Mais non.
Swan, ne pas regarder l'émission.
Alors,
on vous paye pour regarder l'émission de chez vous, non? Non, alors vous restez ici.
Il faudrait me payer. Ce qu'il faudrait faire, c'est me payer pour que je puisse finir à l'heure pour regarder l'émission.
Oui, non, mais j'y crois
ça,
pas.
Ça, c'est pas mal, ça.
Mais vous avez 17 jobs, vous êtes pire que moi. Alors, ce match PSG-Rennes, on va en reparler tout à l'heure en se demandant si la qualif est obligatoire pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut retourner voir Joe une dernière fois ou pas en régie? Joe, on vous a retrouvé, on avait un petit souci de caméra, vous êtes avec nous, vous avez entendu les avis des uns et des autres. Il faut que Rennes soit ambitieux. C'est un gros club français en championnat. Ils sont pas là où ils devraient être. C'est une demi-finale. Le Coupe de France, on devrait voir, je l'espère, du beau spectacle.
Bah forcément, désolé pour la caméra, mon cher Greg, elle ne m'aime pas. Je fais fuir les caméras. C'est comme ça, c'est de famille. Pour ce qui est de Rennes, oui, mais moi je trouve que c'est Charlotte, il me semble, qui disait ça. Ils réussissent toujours au Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui embête constamment le PSG. C'est une équipe aussi qui est capable, dans les grands rendez-vous, d'avoir une attitude particulière. C'est une équipe qui est capable d'aller chercher haut parce qu'il y a du volume, qu'il y a de la qualité, qu'il y a de la qualité sur les coups de pied arrêtés. Donc on verra du spectacle. Il faut espérer, je suis désolé de dire ça, mais j'ai tellement vécu un drame hier au niveau de l'arbitrage qu'il faut espérer que l'arbitrage soit au niveau, et c'est difficile de dire ça, mais en France actuellement c'est pas toujours le cas. J'aimerais bien que ça soit un beau match, pas polémiqué par l'arbitrage, mais oui, ça va être une très très belle affiche et une magnifique demi-finale de Coupe de France.
Je vous rassure, Giovanni, deux choses. On reparlera de l'arbitrage et de la qualif lyonnaise avec Ahmed Kantari, l'entraîneur valenciennois, qui sera avec nous. Et les caméras vous aiment. Vous êtes né en avance, vous êtes un peu le Truman Show français, Giovanni. Les caméras étaient sur vous à votre berceau. C'est de famille, vous l'avez dit. Donc vous restez avec nous pendant toute l'émission, évidemment, dans l'équipe de... Elle va vous chercher, vous me trouvez. C'est logique. Voici le zapping préparé par Sacha de Persin ce soir. Rejected. Wemby sat on that one. Over to Champagny. And Wemby after it. No, put it up and in. Yes. Ronaldo vai para a bola. Pé direito a tira. E está feito. Marca Cristiano Ronaldo. A bola a sair junto à relva e toca ainda.
Oh yes, he's landed in the corner.
Ils doivent permettre de monter le. Oh, bah, attention, oh, Libet, c'est pas.
C'est bien joué.
Libet, c'est pas.
Face à face,
c'est Libet, c'est pas.
Quel but! Quel passe extraordinaire qui équilibre le score. Le Juventus s'est bien enfoncé. Il ne l'a pas raté. Le face à face, Juve 1, Lazio 0.
Qu'est-ce qu'elle est belle cette passe! Oh, il va falloir vite remontrer ça. Mais alors, quelle mise sur orbite de ce joueur, Chiesa, qui est vraiment le joueur, hein, qui fait les bons appels, les bons déplacements, qui donne de la vitesse et de la profondeur.
Jackson Hayes.
Come on, Jackson.
You see Jackson Hayes between the legs.
Au sol ce ballon, et voilà, il faut que les McPike puissent s'appuyer sur leur qualité technique.
Oh, ça c'est très très bien fait, c'est passé et c'est pour Isaac qui va.
Oh, quel travail!
C'est un travail monumental de la part de l'attaquant des McPies. Il est irrésistible ce joueur. Alexander Isaac donne l'avantage à Newcastle, le travail est remarquable.
Too cute.
Sueco agora chega ao Sporting com mais gente. O Benfica agora muito lento. O remate do Man, golo! Que golaço de Ullmann! Estava a ver-se.
Avec Ewan Kostiou qui va à nouveau mettre du rouge dans la vie d'Emmanuel Hubert. Et bien voilà, la victoire pour Ewan Kostiou, le vainqueur d'un jeune homme de 21 ans qui obtient sa première victoire chez les professionnels ici à l'occasion de la deuxième étape. Valentin est derrière.
C'est
Coche de Froid qui va chercher.
Non, Bennett devant Janière.
Ah, Bennett était rentré effectivement.
For Diego Lanez. Lanez hooking that one in. Gignac is there.
Deux dixièmes sur Golston qui avait fait une première partie incroyable.
Attention, cette zone-là, elle est très compliquée avec Slavik qui va arriver sur
dans
les marches.
Section,
oh, attention, il a perdu. Il a perdu le vélo là. On espère qu'il s'est pas fait mal là parce que
le sprint va être relancé à présent. Est-ce que Tim Merlier va trouver l'ouverture? Il est idéalement placé en deuxième position. Attention, ne pas lancer trop tôt.
Hugo Hofstetter dans la roue.
Hugo Hofstetter bien placé également côté français. Dylan Groenewegen, mais Tim Merlier est en train de s'envoler. Est-ce que Tim Merlier va pouvoir garder la ligne? ligne. C'est impeccable.
Jasper Philipsen.
Et non, ça n'a pas suffi. Jasper Philipsen qui doit s'incliner pour la deuxième fois de la saison seulement face à Tim Merlier. On s'attendait à un duel. Jasper Philipsen est parti de trop loin. Victoire impériale, indiscutable, de Tim Merlier sur ce Grand Prix de l'Escaut.
Voilà pour ce zap avant d'accueillir Ahmed Kantaï, le coach de Valenciennes, qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour revenir sur le parcours déjà de Valenciennes jusqu'en demi-finale de la Coupe de France et puis sur l'élimination hier soir du côté de Lyon. On voit les images, Raphaël.
Oui, avec ces décisions arbitrales contestables de Stéphanie Frappard, qui était l'arbitre principal, qui ont laissé un goût amer peut-être aux Valenciennois battus donc face à Lyon en demi-finale. Tout d'abord, cette action à la 38e minute de jeu avec Knockaert qui s'était défait d'O'Brien. Le but va être validé dans un premier temps, mais Madame Frappard va voir les images et va annuler le but pour Valenciennes. Et puis il y aura ensuite, vous l'avez vu, cette occasion pour les Lyonnais avec Lacazette qui s'est écroulé en surface de réparation. Il va convertir de pénalty, puis il va s'offrir un doublé à la 57e minute de jeu. Et puis à la 75e, c'est Orban qui marque le but du 3-0.
Voilà, Ahmed Kantaré est avec nous. Bonsoir Ahmed, merci d'être avec nous en direct dans l'équipe de Greg. Première question, comment allez-vous presque 24 heures après?
Ah, toujours sous le coup de la déception, hein. On digère tout doucement cette défaite et puis surtout les faits de jeu qui ont conduit à cette défaite, qu'on voilà, un peu du mal à accepter et à digérer.
Ouais, j'imagine bien volontiers. Est-ce qu'on retient quand même, au moins de façade ou devant ses joueurs, le parcours de Valenciennes? Parce qu'une demi-finale de Coupe de France, c'est pas rien. Alors, ok, c'est pas une finale, je comprends la déception, je cherche pas à vous dire le contraire, mais est-ce qu'on retient ça quand même un peu, l'épopée?
Ouais, moi j'ai beaucoup de fierté. Franchement, je suis fier de mes joueurs parce que ce que je voulais, c'est surtout qu'ils vivent cette finale, qu'ils passent pas à côté, qu'ils aient pas de regrets en étant inhibés par l'événement, en étant inhibés par le stade, par l'atmosphère. Et rien que dans ça, je suis fier d'eux parce qu'ils l'ont joué, ils ont respecté le plan de jeu, ils ont été acteurs de cette finale. Et je voulais pas qu'on soit en réaction, et je voulais vraiment qu'on influe sur le jeu, et ils l'ont bien fait.
Alors, surtout que pendant bonne partie du match, vous avez tenu tête, vous avez même ouvert le score. Un but qui a été refusé. Je voudrais qu'on parle de cette action de jeu. Qu'est-ce que vous pensez de cette faute, ce but qui a été validé dans un premier temps, Raphaël l'a rappelé, avant d'être annulé dans un deuxième temps. Quelle est votre lecture de cette action?
Bah, je trouve que c'est très sévère dans le sens où le défenseur lyonnais en fait ne vient pas jouer le ballon, il vient jouer le corps de mon attaquant pour se mettre en opposition, faire un peu une faute un peu intelligente. Vous savez, comme on fait souvent, nous, les défenseurs, et je suis bien placé pour le dire, parce que ça m'arrivait des fois, où on attend que l'attaquant vienne nous percuter pour tomber sur le ballon et le prendre un peu avec la main. Et en fait, on se rend compte qu'il joue mal le coup, parce que mon attaquant sent le coup venir. Et pour moi, le contact est très, très léger pour siffler, sachant que juste sur l'action d'avant, nous, on a notre excentré qui se fait découper devant le banc. Et voilà, je trouve que c'est assez sévère.
En tout cas, j'apprécie que vous preniez de la hauteur et que vous mesuriez chacun de vos propos et de vos mots, une ère où évidemment il y a beaucoup plus d'excitation qu'autre chose. Benoît Trémoulinas, qui est évidemment défenseur comme vous, Benoît, moi j'ai un sentiment, n'ayant pas connu comme Ahmed ou comme vous le terrain, même un petit niveau, hein, je trouve que certains arbitres, particulièrement ceux du VAR, ont un manque de subtilité sur la défense. C'est-à-dire que quand je vois Beraldo qui juge le bras qui part alors qu'au début, c'est un coup d'épaule, quand je vois ici cette action très bien expliquée par Ahmed Kantaré sur il va se faire tamponner, il l'a anticipé, il faut avoir joué au foot pour comprendre ça ou pas?
En fait, le problème, c'est à l'appréciation de tout le monde. Et je suis complètement d'accord avec Ahmed Kantaré. Il était défenseur, moi aussi je l'étais, donc il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que souvent, moi ça m'est arrivé, lorsqu'on sait qu'on va être pris de vitesse ou lorsqu'on sait que l'attaquant va nous dribbler, qu'est-ce qu'on fait? On se met devant et on tombe. On attend qu'il nous tamponne plusieurs fois. Sauf qu'en fait, depuis des années, les arbitres ne sifflez jamais cette faute, parce que c'est une faute du défenseur, c'est pas une faute de l'attaquant.
Comme quand vous protégez un ballon,
exactement.
Qui part aussi
l'être. Sauf qu'en fait, depuis des années, cette obstruction n'a jamais été sifflée. Alors que hier soir, aujourd'hui, on a la chance d'avoir la VAR. Avec la VAR, on voit très bien qu'O'Brien, il ne joue pas le ballon, il savait très bien qu'il allait se faire prendre. Et en plus, il joue mal le coup parce qu'il tombe sans non plus trop se faire tamponner par l'attaquant. Donc pour moi, il y a totalement un but. Et comme l'a dit Ahmed, en plus derrière, il y a le joueur qui se fait découper et c'est limite un jaune orangé. Donc pour moi, c'est une erreur manifeste de Madame Frappard. Le problème, c'est, je me répète, c'est que depuis des années, cette obstruction n'a jamais été sifflée en fait.
Elle l'avait validée, Madame Frappard. Ouais.
Madame Frappard avait validé le but. Elle est allée voir ensuite les images.
Le problème, parce qu'il faut, il faut rappeler.
C'est le VAR qui estime qu'il y a erreur manifeste dit à Madame Frappard d'aller voir les images. Et c'est elle qui prend la décision d'annuler le
but. Donc c'est double erreur, en fait.
C'est double erreur. En fait, Benoît parlait de la chance qu'on avait d'avoir le VAR. Là, en fait, Madame Frappard n'a pas tout bien fait hier, loin de là, on en reparlera après. Mais on est dans des situations où le VAR prend en otage l'arbitre.
Ouais.
C'est-à-dire que l'arbitre, après une décision qui est valide, selon moi, à savoir autoriser le but, qui est complètement valable. Et à partir du moment où elle est convoquée devant l'écran et qu'on a un ralenti avec un contact où on se dit « bon, s'ils m'ont appelé, c'est que j'ai fait une connerie, etc. », les arbitres sont mis dans des situations très, très compliquées. Okay. Encore une fois, ça ne justifie pas du tout la qualité de son match après coup, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais le VAR, là-dessus, n'est pas une amélioration, parce qu'à partir du moment où le jugement est mauvais dans le VAR, l'arbitre est pris en otage.
Oui, parce qu'en fait, finalement...
Mais elle a le droit de déjuger le VAR, quand même. Enfin, elle a le droit de dire
alors,
non.
Mais c'est le VAR, c'est le VAR qui sélectionne les images.
Pierre, le droit de le déjuger, ils l'ont. Mais le courage, c'est un truc qui est inhérent à tous les championnats, c'est pas qu'en France. Le courage d'aller contre le VAR, c'est très difficile pour un arbitre de se dire j'assume ma décision et je reste avec cette décision.
Non, mais exactement. Le problème sonne hier soir, c'est qu'en fait, cette faute-là, pour moi, il y a faute d'O'Brien.
Bien sûr.
Il y en a eu des milliers de fautes comme ça, mais personne n'a jamais sifflé contre le défenseur. C'est pour ça qu'elle se dit, attends, si je siffle, derrière il y a but, est-ce que je siffle
Benoît,
pas elle est dans une période...
J'ai Ahmed Kothari qui veut réagir à tout ce que vous dites, et on écoute Charlotte, qui est également défenseur. Je vous écoute, Ahmed.
Non, c'est très juste. Après, c'est très juste ce qu'on dit sur le plateau. Mais nous, il y a une... Entre guillemets, on sent une injustice, parce que quand ça va dans l'autre sens, eh ben, elle prend la peine de, entre guillemets, suivre l'avis du VAR. Et quand la VAR la sollicite pour, à juste titre, et je pense qu'on va en parler pour le penalty. Là, elle ne va pas dans le sens du VAR. Donc, c'est là où, en fait, pour nous, il y a double peine et on sent vraiment une injustice par rapport aux décisions qui ont été prises.
On revient à l'histoire habituelle des puissants et des moins puissants. Charlotte, on va sur le pénalty maintenant. Est-ce qu'il y a pénalty? Je vous pose la question franche. Vous êtes défenseur? Vous avez toutes les tactiques de vis pour faire des fautes cachées, pas faire de fautes, subir tout ça. Vous connaissez ça par cœur chaque week-end. Il y a péno ou il n'y a pas péno?
Pour moi, il y a pénalty. Et pour moi, il y a faute du Valenciennois. Pourquoi? Parce que je suis d'accord que quand on est pris de vitesse, on aime bien se mettre face à l'attaquant. Sauf que là, en fait, le Valenciennois a fait un petit croche-patte. C'est-à-dire qu'il est intervenu alors que le ballon, il était beaucoup, beaucoup plus loin. Si, à la limite, O'Brien vient percuter, là, il y aurait eu faute pour le Valenciennois. Mais moi, je trouve que c'est pas un scandale. Et pour le pénalty, il était très bien placé, le défenseur de Valenciennois, qui se met dans la course de la Lacazette. Sauf que la Lacazette, il manque sa première touche. Sa première touche, elle devait normalement être vers la ligne de touche. Sauf que sa première touche, elle était mauvaise, elle était à l'intérieur, vers le but. C'est-à-dire que le défenseur, il était emporté, il l'a percuté à haute intensité au niveau du genou. Et donc, c'est pour ça que, à partir du moment où Benoît Bastien met un rouge à Beraldo, pour moi, il y a 100 fois pénalty. Mais 100 fois. Et je reviens sur un petit truc, je regarde toujours les notes de l'équipe, mon cher Greg. À partir du moment où on met 3 à Bastien, pourquoi on met 1 à Stéphanie Frappard, alors qu'il y avait des scandales et des litiges des deux côtés? Soit on met 3 à Stéphanie Frappard, ou soit on met 1 à Bastien.
Merci Charlotte d'avoir une voix dissonante, parce que c'est justement l'idée, c'est que tout le monde puisse en parler. C'est aussi ce qui, j'espère, fait la richesse du plateau ce soir. Ahmed Kothari, je vous fais réagir au propos de Charlotte. Alors évidemment, elle joue à Lens, alors vous êtes valencienne. À mon avis, il y a une feinte. Non, évidemment, je chambre, mais est-ce que vous pouvez entendre son point de vue en tant qu'ancien défenseur?
Non, parce que moi, je ne juge pas l'action du tout de la même manière. En fait, mon défenseur, il défend très bien, il est dans sa gestion de profondeur. Le ballon, il l'emmène vers le côté. Lacazette, sur sa première prise de balle, il perd complètement le contrôle du ballon, en fait. Mon défenseur, il est situé entre le ballon et Lacazette. Et c'est Lacazette qui vient percuter la jambe de mon défenseur. Et non pas mon défenseur qui percute la jambe de Lacazette. Après, peut-être que, avec l'utilisation du VAR, on estime que mon défenseur pose le bras sur Lacazette. Mais là, ça, c'est différent. Mais en tout cas, au niveau des jambes, c'est pas mon défenseur qui va vers la casette, mais c'est plutôt la casette qui va vers mon défenseur.
Alors un mot de Benoît pour trancher, comme ça j'aurai eu les trois défenseurs. Il y a un partout, on fait quoi Benoît là?
Non, malheureusement je suis pas d'accord avec Charlotte, et pourtant je l'adore. Hein, je
ça sert à rien de passer la pommade pour lui dire qu'elle a une bêtise.
Mais non, je suis pas d'accord, parce qu'en fait des situations comme ça, mais il y en a eu des milliers, et malgré tout le football c'est un sport de contact. Moi je trouve qu'en fait la casette joue à l'expérience, joue très bien. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il va mettre sa jambe droite entre les jambes du Valenciennois et accentuer la faute et accentuer sa chute. Donc pour moi, il n'y a absolument pas faute. Il défend très bien le défenseur valenciennois parce qu'il amène un petit peu sur le côté, il ne le pousse pas avec sa main. Non, c'est un sport de contact aussi. Mmh. Des pénalties, si on siffle pénalty sur cette faute-là, il y a 10 pénalties par match.
Bon, alors, vous voyez, Swan et Pierre, je vous prends un témoin, Alicia et Raphaël Paille. C'est passionnant parce que nous, on n'a pas été au niveau comme nos trois camarades et on voit qu'il y a quand même aussi un désaccord. Alors, Ahmed, oui, Benoît.
Greg, c'est pour ça qu'en fait, souvent, on dit, ce serait bien, c'est une idée, hein, ce serait bien pour la VAR, qui est vraiment un ancien footballeur professionnel,
c'est ce que je vous disais,
qui soit dans le bus, parce que nous aussi on a cette sensibilité de jeu où on a vécu ces moments à haute intensité.
Que je vous recommande. Vous voulez que je mette un mot pour vous
que forcément, certains arbitres n'ont pas connu.
Alors, et vous savez, c'est Vikash Dorasso, qui est évidemment chroniqueur chez nous, qui nous dit que le ralenti, par exemple, oui, peut aussi induire en erreur. Ah, oui. Vikash, il a une théorie qui fait que le ralenti fausse complètement une action, puisque la vitesse réelle, Ahmed, je vous laisse réagir sur ça, puis après on parle de l'autre incident de la soirée, influe, vous parlez de la main sur l'attaquant, peut-être que de voir des images arrêtées, présélectionnées et au ralenti, change la donne.
Ouais, c'est toute la difficulté pour moi de l'arbitre. C'est pour ça que je veux pas du tout frapper sur Madame Frappard, parce que elle est acteur du jeu, elle est dans l'action, et on a des sensations à vitesse réelle qui souvent sont des bonnes intuitions. Avec les images, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, et sortir des fois des images de leur contexte, de la vitesse réelle, ça induit en erreur.
Bon, alors, je voudrais qu'on revienne également sur ce qui est arrivé à Orlando Silvestri, votre adjoint, puisque on l'a appris dans la soirée, il est allé rejoindre sa famille et on a appris qu'il avait été passé à tabac par quelqu'un qui s'occupe de la sécurité du côté de l'Olympique Lyonnais. Je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, ce que vous savez. Puis moi, tout à l'heure, et vous verrez que les deux versions sont proches, puisque le club lyonnais, John Textor et Laurent Prudhomme, président et directeur général, se sont excusés. Vous allez nous raconter votre point de vue. Puis moi, je vous donnerai l'avis de Laurent Prudhomme, puisque je l'ai eu avant l'émission, parce que je voulais absolument avoir également son point de vue. Je l'ai eu longuement avant l'émission. Il n'a pas souhaité parler, mais il m'autorisera à parler en son nom après ce qu'on s'est dit. Je vous écoute, Ahmed.
Écoutez, moi, je n'ai pas assisté à la scène, mais des retours qui m'ont été faits, c'est que mon adjoint, Orlando Silvestri, est parti rejoindre son épouse et sa fille qui étaient en tribune, et il s'est fait agresser par un des stagiaires. Donc moi je trouve ça totalement inacceptable, et mon adjoint a tout mon soutien, parce que c'est pas tolérable qu'on puisse être dans un stade où déjà il y a un envahissement de terrain, et je trouve que c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes, et c'est dangereux parce que il y a des enfants, on veut remettre une ambiance familiale dans les stades. Mais aujourd'hui, est-ce que les parents vont vouloir venir avec leurs enfants s'il y a un risque à chaque fois d'envahissement et de mouvement de foule? Donc ça, il faut absolument qu'au niveau de la sécurité, il y ait des mesures qui soient prises. Le club de Valenciennes et les dirigeants lyonnais, et d'ailleurs, je pense que le club a fait un communiqué, nous, en ce sens, pour remercier l'action des dirigeants lyonnais parce qu'ils prennent le problème à bras-le-corps. Il y a une plainte, d'ailleurs, qui a été déposée pour pouvoir éclaircir cette histoire. Mais il faut absolument qu'on puisse venir au stade en toute sécurité. Et ce qui s'est passé hier, c'est juste intolérable.
Alors, question, comment va Orlando?
Orlando est touché. Je l'ai eu encore il y a quelques instants au téléphone. Voilà, Orlando, c'est quelqu'un d'entier, pour ceux qui le connaissent. Et il a été touché par l'événement. C'est quand même c'est un joueur c'est un ancien joueur. Il a une carrière. Il connaît les tensions. Il connaît les atmosphères dans les stades. Et voilà, il a jamais vécu ça, quoi, ce sentiment d'insécurité. C'est pas normal aujourd'hui en 2024 d'être dans cette situation.
Et physiquement, il va être stoppé quelque temps. Je peux vous poser la question?
J'espère pas. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on était au repos. Donc chacun a profité de cette journée pour récupérer. Mais en tout cas, il est touché forcément mentalement par euh, par cette, cet événement.
Alors, je tiens à vous dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu Laurent Prudhomme, le directeur général de l'Olympique Lyonnais, en ligne avant l'émission. Vous disiez qu'ils avaient pris le problème à bras-le-corps. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils ont toutes les vidéos du stade. Ils ont contacté le prestataire, parce que ce n'est pas l'OL qui assure lui-même la sécurité, mais un prestataire extérieur, comme dans quasiment 100% des stades. Ils ont retrouvé la personne qui a agressé votre adjoint. Ils sont allés le voir. Ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai compris, c'est que ce garçon ne pourra plus venir au stade du côté du Groupama Stadium, exercer son métier de sécurité, de stadier. J'ai pas la dénomination exacte, mais en tout cas, il ne pourra plus faire cela. Une plainte a été déposée, vous l'avez dit vous-même, et l'intégralité des bandes sont désormais aux mains de la police. Voilà ce que m'a dit Laurent Prudhomme. Donc il y aura un suivi du côté de l'Olympique Lyonnais. Je ne suis pas leur porte-parole, hein, mais comme je vous avais dans l'émission, je tenais également à avoir aussi le son de cloche de la part de la direction de l'OL qui, comme vous l'avez dit, s'est excusé hier. Et donc je vous le rapporte, comme vous l'aviez dit. Là, on est raccord sur cette histoire-là. Vous transmettez évidemment toutes nos pensées positives à Orlando Silvestri de notre part. Un dernier mot, Ahmed, merci d'être venu ce soir. Concernant la Ligue 2, vous êtes dernier de Ligue 2, là c'est compliqué ce championnat cette année. On a redécouvert, pour certains, en lisant le journal, qu'il y avait donc ces investisseurs, qu'il y avait de l'ambition au sein du club, que Valenciennes allait peut-être descendre, mais finalement renaître pour remonter très vite. Il se passe quoi au club? C'est quoi le sentiment général si je laisse de côté la demi-finale?
Non, mais il y a beaucoup de déceptions. Voilà, c'est une saison difficile en termes de résultats. Et forcément, c'est toujours difficile à vivre. Quand les choses ne tournent pas comme l'on veut, maintenant voilà, il y a des investisseurs qui sont solides, qui ont une expérience aussi dans le rachat de clubs et dans la structuration des clubs. Et enfin, Valenciennes, c'est un club historique, c'est un club avec des supporters, c'est un club avec un engouement, c'est un club centenaire. Quelle que soit l'issue de la saison, c'est un club qui se reconstruira et qu'on retrouvera au plus haut niveau rapidement, j'en suis persuadé.
Avec Ahmed Kantari.
Ahmed Kantari, il est là pour 8 matchs, il travaille, il veut gagner des matchs, il veut faire des belles prestations comme ça a été fait hier, en tout cas sur une bonne partie du match. Et puis voilà, dans le football, les choses peuvent aller très vite, mais voilà, on verra comment se déroulent les choses dans les prochaines semaines.
Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir pour débriefer calmement, avec intelligence, avec la tête reposée, ce qui s'est passé hier, pour montrer qu'on peut en parler sans excitation. Puis vous savez, mes chroniqueurs vous remercient, enfin surtout Pierre et Swan, hein, parce que déjà que l'émission faisait 1h20, comme ils n'ont pas parlé pendant 25 minutes, ils ont la pige la plus haute à la minute de leur année. Bonne soirée, Ahmed. Merci, plein de bonnes choses pour la suite bonne de votre soirée. Carrière et pour le VAFC, bien évidemment. Alicia, Jean-Michel Aulas a répondu, c'est de ça dont vous voulez parler ou pas du tout?
Pas du tout. Pas mais du tout. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi parler de Jean-Michel Aulas, mais j'avais aussi envie de parler, parce qu'effectivement, il y a eu ces décisions litigieuses, il y a eu cet incident dont on vient de parler, dont on se serait bien passé, mais il y a aussi des émotions, des belles émotions, de la joie, des célébrations, et une image forte dans cette soirée, c'est Pierre Sage qui a été porté par ses joueurs. C'est une des belles images, l'homme qui a redressé l'Olympique Lyonnais, aidé aussi par un bon mercato, mais tout de même, un entraîneur issu du monde amateur qui est aujourd'hui l'un des héros du club. On pourra se poser la question aussi sur son avenir si jamais.
Oula, d'anticiper par. Non, oh là là là
bien
là.
Bien sûr, mais on en a un petit peu parlé hier, donc pourquoi pas Pierre Sage, on verra ça. Oui, plus tard. Oui. L'autre héros, c'était Alexandre Lacazette. On a vu toute sa rage après son premier but, ému presque aux larmes à la fin du match. J'avais des regrets par rapport à la demi-finale de l'an dernier, a-t-il déclaré, celle perdue face à Nantes. Je n'avais pas su emmener l'équipe et ce soir, je suis très heureux. On veut gagner ce trophée. Ce sont ces mots à l'issue du match. Le capitaine lyonnais qui va revivre une autre finale après celle face à Quevilly en 2012, donc 12 ans après, il va revivre une finale avec son club. Il n'avait pas tout à fait le même statut il y a 12 ans. Là, il en disputera une nouvelle de finale face donc au Paris Saint-Germain ou Rennes le 25 mai prochain. C'est lui, le général, qui emmènera toute son équipe. La fête était tout de même belle à la fin au Groupama Stadium.
Voilà, puisque Lyon s'est qualifié. Alors, on a évidemment axé avec Ahmed Kantari cette histoire-là sur l'arbitrage et sur Valenciennes. Mais on rappelle, Lyon s'est imposé, bien sûr, et a eu raison de faire la fête et de célébrer la qualification des siens. L'OL est en finale de la Coupe de France. Raphaël Sebaoun est dans le même bateau que Pierre et Swan. Et pourtant, on veut les faire faire un foutoir express. En plus de l'instant Pino, en plus d'un jeu, en plus de la compo du PSG Rennes. Ça va être bien. Bon, restez avec nous jusqu'à 20h05. De retour sur le plateau de l'équipe de Greg, on va monter en puissance avant la deuxième demi-finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Rennes. On jouera, quand même, je vous oublie pas, hein, vous allez jouer. On aura le foutoir express de Raphaël avec beaucoup d'images et du mercato. Ah, fou. La tablette commence déjà à chauffer.
Et oui.
Mais avant cela, on est mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Voici l'instant Pino avec une nouvelle production de l'EDG.
L'équipe de Greg présente. Après le succès de la série Validée, le succès de Validée 2 par la femme de Martin Scorsese. Martin Scorsese. L'histoire d'un jeune chanteur, Ben Koss, qui veut percer dans une toute nouvelle émission, Plan Greg Rap. Face à lui, un jury de plusieurs chroniqueurs qui vont se battre.
Allez vous faire voir devant la télé.
Tu fermes ta gueule.
Vous êtes des merdes.
Je m'en fous.
J'ai pas dit ça.
Comme jamais.
Chut.
Pourquoi moi je suis un con moi.
L'incroyable Mohamed Bamba. L'incroyable Mohamed Bamba. Il est trop fort, il manque des buts.
Ne pas le produire.
Il n'a même pas vu ça. À Malibu, loin des Merlus. Il se demande qui c'est ce con qui chante dans son émission.
Surtout pas. Pas validé. La toute dernière création de l'équipe de Greg. Face à Ben Koss, un jury qui ne veut pas le produire et qui est prêt à se battre pour ça.
Voilà.
Cool, c'était avant.
Nova.
Enfin, presque se battre. Pas validé. Une création, l'équipe de Greg. En salle le 3 avril.
Merci Antoine Pino pour ce pas validé. Moi, je continuerai à encourager Benoît à chanter. Tant que je regarde pas, ça me va. Est-ce qu'on a le compo du PSG? Oui, Giovanni, c'est bon. Il est avec nous au Parc des Princes en direct. Giovanni, rebonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. On a la compo de ce PSG Rennes.
Et ceux qui ont assisté au début d'émission vont comprendre la difficulté de travailler avec Luis Enrique. C'est absolument pas ce qu'on vous avait donné en début d'émission. Donc dans les cages, Donnarumma. Sur le côté droit, Achraf Hakimi. Côté gauche, Nuno Mendes. Charnière centrale composée de Lucas Hernandez et de Marquinhos qui sera donc capitaine devant la défense Vitinha. Les deux relayeurs, Warren, Zaire, Emery. Axe gauche, Fabian Ruiz. Et l'organisation de devant. Alors, pour l'instant, c'est encore flou, mais c'est les premiers retours qu'on a. Ousmane Dembélé serait faux neuf. Côté gauche, Mbappé, et côté droit, Kang In Lee.
Voilà, merci Giovanni. Bah, finalement, c'est bien qu'on le savait, on a imaginé que, et finalement, voilà la tradition est respectée, Gio. Hein.
Attends, il a dit que...
il y a pas de souci, mais j'aime bien. Et puis surtout, blague à part, j'ai vraiment hâte de voir le positionnement d'Ousmane Dembélé, parce que c'est des choses qu'ils ont, là pour le coup, on le sait, travaillé à l'entraînement. C'est un peu la clé de l'organisation parisienne, donc ça va être hyper intéressant.
On va changer le liner. Dembélé n'est pas sur le banc, les copains.
Il sera faux neuf.
Il sera faux neuf. Moi, j'ai mis Dembélé sur le banc, Dembélé sur la pelouse. Vous avez entendu Giovanni, c'est-à-dire qu'on avait anticipé.
Oui.
Autant vous dire, je pense que le liner était prêt sur la compo de tout à l'heure. Vous restez avec nous, Giovanni. Pierre Maturana, sur cette compo. On imaginait possiblement Skriniar, Danilo, défense lente. Bah, finalement, c'est Lucas Hernandez. Et le retour de Marquinhos, hein.
Ouais, il met la belle armada. Je sais pas si c'est la plus grosse qu'il a à disposition, mais quasiment. On remarque aussi l'absence de Colomani encore. C'est des choses qu'on peut noter. Non, il y va pour gagner. On voit que c'est le match important pour lui. C'est un des objectifs de la saison, c'est de ramasser le plus de titres, et celui-là, c'est le plus abordable aujourd'hui. Donc, ouais, il n'y a pas beaucoup de surprises. Skriniar, malheureusement, on est tous un peu déçus de ce qu'il a fait cette saison, et je pense que Luis Enrique en premier, et qu'il n'est pas, dans les hiérarchies. On l'imaginait pourtant l'été dernier qu'il pouvait bousculer cette hiérarchie en défense centrale, et il n'y arrive pas.
Alors, on va en parler de ce PSG. Est-ce que c'est une qualif en finale obligatoire pour le PSG, pour la dynamique, à une semaine moins même du match contre le Barça? On en parle juste après le foutoir. Ce sera express. Il y a des images du mercato avec Raphaël Sebaoun. Et on reste avec Rennes, Désiré Doué, qui va agiter le mercato possiblement cet été.
Exactement, c'est ce qu'on a appris ce matin dans le journal L'Équipe. Déjà fin janvier, le Bayer Leverkusen avait formulé une offre de 20 millions d'euros pour laquelle Rennes n'avait pas souhaité discuter, le considérant intransférable à ce moment-là. Il sera difficile de le retenir l'été prochain, surtout si Rennes ne joue pas de Coupe d'Europe. Mais il ne partira sans doute pas pour moins de 40 millions d'euros. Une dizaine de clubs sont à l'affût, probablement sans doute encore Leverkusen qui repartira avec Xabi Alonso, donc avec le même coach. Ouais.
Pas de surprise, Alicia.
Donc a priori, il ne devrait pas disputer les JO. S'il part, transition toute trouvée, il y aura un arbitre français pour les tournois masculins et féminins de football des JO de Paris. Il s'agit de François Le Texier, retenu par la FIFA. L'arbitre de 35 ans officiera pour la première fois lors d'une phase finale d'un tournoi international au plus haut niveau.
Voilà pour François Le Texier. 10 clubs qui sont encore là à 40 millions d'euros pour Doué, ça vous surprend ou pas?
Non, parce que les primes ne me surprennent plus aujourd'hui dans le foot.
Prospect de grand talent.
C'est un joueur voilà, qui a beaucoup de talent, qui est une vraie promesse. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que la Ligue 1 va perdre Mbappé cet été et qu'elle va perdre, elle a déjà perdu pas mal de stars par le passé. Et si on pouvait garder ces joueurs-là encore un peu, ce serait pas mal.
On avait le moral, il y a de la Coupe de France, on est content.
Mais aujourd'hui, si tu regardes un peu les joueurs un peu sexy en Ligue 1, c'est souvent des jeunes. Et donc c'est Doué, c'est Akliou, c'est ces joueurs-là.
Arrêtez.
Yoro, voilà.
Yoro. Bah, il va s'en aller
voilà,
aussi.
Voilà, mais ces joueurs vont partir et j'ai un peu peur que le plateau.
Le plateau ici.
Le plateau Ligue 1.
Aussi, Ligue 1.
L'année prochaine soit quand même un peu décevant.
Il va falloir faire rejouer Tremolinas, je vous le dis. Hein.
Non, il va falloir rejouer. Non, c'est un peu cher pour Benoît. Ouais. J'aime beaucoup, mais pour
le coup, ça pourrait fonctionner.
La Juventus s'impose face à la Lazio.
En demi-finale allée de la Coupe d'Italie, que vous avez vécu hier soir sur la chaîne L'Équipe, dans un match disputé, les hommes de Massimiliano Allegri ont pris le dessus sur ceux d'Igor Tudor. C'est la 50e minute de jeu. Chiesa ouvre le score, bien lancé dans la profondeur par Andrea Cambiasso. Ça fait 1-0 pour la Juve dans ce match avec ce superbe but de son international italien Federico Chiesa. Et puis McKennie, 64e minute de jeu. Regardez, une touche pour aller trouver Dusan Vlahovic. Les passements de genre, le petit décalage pour aller marquer. Les Bianconeri donc, se sont facilité la tâche pour leur match retour qui se jouera le mercredi 23 avril. Ce sera sur la chaîne L'Équipe. Et ce soir sur la chaîne en direct, l'autre demi-finale allée de cette Coupe d'Italie, Fiorentina Atalanta Bergame.
Et on vous offre le maillot de la Fiorentina. Alicia vous l'a montré tout à l'heure sur XX Twitter. Bonne chance à tous. Avant de vous montrer les buts de Cristiano Ronaldo et de parler de la compo du PSG, Armada lourde face à Rennes et de se plonger dans cette demi-finale, Benfica, futur adversaire de l'OM, éliminé par le Sporting.
Exactement. En coupe, demi-finale de Coupe du Portugal, vainqueur 2-1, match aller. Bien, les Lions ont arraché le nul 2-2 au retour, ce qui permet au futur adversaire de l'OM d'être éliminé. Yulmand ouvre le score. Superbe but, magnifique, c'est l'un des buts de la soirée d'hier, 1-0. L'égalisation d'Otamendi, le défenseur champion du monde argentin qui affrontera donc l'Olympique de Marseille à la 52e minute. Le Sporting va reprendre l'avantage, Paulinho 55e minute de jeu et c'est Rafa qui va égaliser pour Benfica, mais insuffisant pour le futur adversaire de l'Olympique de Marseille qui ne disputera pas la finale de la Coupe du Portugal.
Et puis, on a les buts de Cristiano Ronaldo, un nouveau triplé avec Al Nassr.
Oui, et qui a régalé contre Rabat, c'était sur le score de 8-0, un grand CR7, la star portugaise a donc marqué un triplé. On vous montre ces trois buts, dont deux sur coup franc, d'abord à terre. Merci, il est pas mal. Hein. Ça, c'est le premier but de Cristiano Ronaldo. On est à la 11e minute de jeu. Puis un deuxième coup franc, mais le tire différemment. 21e minute de jeu, bien placé à CR7. Cristiano Ronaldo qui va marquer un troisième but à la 42e minute de jeu. Il a donné également deux passes décisives dans ce match. Et ça fait 36 buts en 35 matchs de compétition confondus.
C'est pas mal, c'est pas mal. La petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, le survivant, voilà ce qui vous attend après notre débat sur le Paris Saint-Germain. Vous avez vu la compo. Est-ce que ce soir, la qualif est obligatoire pour le Paris Saint-Germain? Regardons vos ardoises, le PSG en demi-finale face à Rennes. Oui pour Alicia, oui et oui pour Swan et Pierre. De l'autre côté, bah, c'est unanime. Triple oui, Charlotte, Benoît et Raphaël. Pourquoi oui, Charlotte?
Parce que la Coupe de France, on sait que Paris fait très très peu de fautes et qu'ils sont souvent là au rendez-vous. Mais c'est pas parce que je mets oui que Paris est ultra favori, même si sur le papier ils ont les armes pour. Mais j'attends si Gio va nous présenter la compo de Rennes. Mais elle est très très offensive. Elle me plaît beaucoup cette équipe de Rennes. Et puis,
on l'a. Elle va s'afficher pendant que vous parlez.
Et puis non, ils sont très bons contre le Paris Saint-Germain et en Coupe de France, ça peut.
Et oui, mais quand on dit obligatoire, c'est pour la dynamique. Oui, PSG ne perd plus. Même quand ils font des mauvais matchs, ils font des matchs nuls où ils s'en sortent. Ils ont le Barça dans moins d'une semaine. Ça ferait tâche d'être sorti.
Non, mais le PSG doit gagner, doit tout gagner. Tout ce qui est, donc là, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, mais la Coupe de France, c'est obligatoire qu'ils doivent la gagner, évidemment. Mais pour le spectacle, pour le jeu, moi, je suis pour les équipes qui sont offensives et qui veulent jouer. Paris Saint-Germain, dans le jeu n'est pas flamboyant, mais ils doivent obligatoirement bien jouer déjà pour que les supporters et puis que nous on puisse dire bah ouais le PSG est présent, ils doivent aller en finale, mais je reste persuadé que Rennes va être présent ce soir.
La dynamique, vous en avez parlé Greg, la dynamique elle est quand même assez forte sur l'année civile 2024, 13 victoires, 4 nuls, pas de défaite, quasiment 3 buts de moyenne par match, une équipe qui encaisse moins de buts qu'en première partie de saison, donc invaincue depuis 25 rencontres. Toute compétition confondue, et l'enjeu est important quand même pour le Paris Saint-Germain, car la dernière fois qu'ils ont remporté la compétition, c'était en 2021 face à Monaco. Ils restaient sur les deux précédentes éditions sur deux huitièmes de finale perdues. Donc là, ils sont en demi face à Marseille et face à Nice.
Alors Benoît, généralement quand je pose une question avec la victoire est-elle obligatoire, je prends dans la tronche et c'est le jeu. Rien n'est obligatoire dans le football. Je vous fais pas le bingo du tout est possible. Et pourtant, vous me répondez oui. Là, ils en ont besoin de cette victoire. Est-ce que c'est un besoin d'ailleurs ? Peut-être que je
m'attends. C'est un besoin, c'est pas une obligation. C'est un besoin pour entretenir cette dynamique. C'est toujours important avant de grosses échéances.
Mais là, c'est une grosse échéance, non ?
Bah oui. Oui, mais pas aussi grosse que celle de la Champions League. C'est pas une finale. Ça reste une demi-finale. Effectivement, c'est un match très important, mais c'est pas une grosse échéance par rapport au match de Champions League qui arrive. C'est toujours bon d'entretenir cette dynamique par une victoire et avec la manière. Moi, je me souviens lorsque j'étais à Séville ou à Bordeaux, lorsqu'on jouait les matchs de championnat le week-end avant le match de Champions League, c'était toujours bien de se rassurer, de faire un très bon match pour arriver costaud pour un match de Champions League. Surtout que là, on parle d'un quart de finale face à Barcelone. Le Paris Saint-Germain a gagné face à Marseille. Ils doivent entretenir cette dynamique en se qualifiant face à Rennes pour arriver dans les meilleures conditions face au Barça. C'est juste une question de confiance. Après, s'ils perdent ou s'ils gagnent, mais pas avec la manière, forcément, ça
alimentera le débat.
Oui, ça alimentera le débat, mais c'est pas non plus catastrophique pour le mental des joueurs. Mais c'est toujours bien de gagner.
Swan Borsellino.
Greg Acher. Regardez la composition de Rennes qui est encore plus offensive que Charlotte.
Oui, regardez ça. Calimundo Guiri, Blas Bourigeaud,
pas de défenseur.
Santa Maria, Désiré Doué, Doué, Truffert, Théâtre, Omari Mandanda. Je veux dire, à part les trois derrière, je ne sais pas qui défend. Là, c'est très
Santa
osé.
Maria, il a une bonne couverture du milieu de terrain, etc. Mais c'est pour le coup une compo qui est Giovanni va se marrer ce soir. Il va passer un bon moment.
Évidemment. Répondez à notre menace. Est-ce que c'est une grosse échéance pour le PSG soir, il dit que non.
Non, c'est une grosse échéance parce que c'est un match face à une équipe qui les met en difficulté, qui est une des bonnes équipes de notre championnat, qui va faire un gros match. Et par contre, je suis obligé de rejoindre Benoît sur le fait que c'est le moment de le faire parce que perdre ici, ça les mettrait dans une situation un peu difficile par rapport au Barça, parce qu'en fait la Coupe de France, elle a une importance autre aussi pour le PSG, c'est que c'est triste, mais encore plus cette année, la Ligue 1, c'est une formalité. On l'a banalisé et ils l'ont banalisé avec les résultats qu'ils ont obtenus ces derniers temps, mais là, ils sont quasiment déjà champions et je vais pas dire que tout le monde s'en moque, mais quasiment. Et une élimination ici ferait vraiment tâche. Donc c'est une grosse échéance. Et je pense que l'échéance est d'autant plus grande que les choix de Luis Enrique sur ce match-là, avec notamment le retour de Marquinhos, vont être vraiment scrutés.
Swan annonce un gros match ce soir. Il y en a eu des gros matchs par le passé, notamment cette finale de l'édition 2019 qui reste un très mauvais souvenir pour les supporters parisiens. On va se replonger dans cette finale complètement folle. Le PSG mène 2-0 dès la 21e minute avec des buts de Daniel Vest et Neymar sur notamment une passe incroyable de Di Maria. Mais c'est avant que les Rennais ne reviennent dans le match. CSC de Kimpembe, but de Mexer pour l'égalisation qu'on voit en une de l'équipe de l'époque. Un match qui part en prolongation. Mbappé expulsé à la 119e minute pour une vilaine semelle sur Da Silva, soirée cauchemardesque d'ailleurs pour lui. Les Rennais qui finiront par s'imposer au bout d'une superbe séance de tir au but après l'échec de Christopher Nkunku qui voit sa frappe s'envoler. Bref, victoire des Rennais avec un Thomas Koubek énorme dans les buts. Il fallait...
Nous on disait Thomas Koubek et vous dites...
Il
est tchèque.
Absolument.
Comment vous prononcez ?
Thomas Koubek.
Voilà.
Fallait
c'est
le placer.
Très bien. Quelle richesse.
Julien Stéphan était déjà là à l'époque.
Atem Ben Arfa aussi.
Atem Ben Arfa, on se souvient avec l'histoire Nasser El Khelaifi, tout ça. Premier trophée pour Rennes depuis 48 ans. Benjamin Bourigeaud, seul rescapé depuis cette finale côté rennais. J'espère qu'on aura encore un match de folie ce soir.
C'était une grande finale avec beaucoup de choses.
Un grand bourrigeau les jours d'après la finale aussi, je crois. Ouais. Si je me rappelle bien.
Assez, ouais. Vous avez raison de le rappeler. Giovanni, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas une qualif obligatoire. J'allais y venir avec Pierre, je commence avec vous. Parce qu'on est obligé de se projeter quand même un petit peu, et on le fera encore plus, demain, quel que soit le résultat sur le match du Barça. Parler du moral, donc moi je parlais de la dynamique à entretenir. Hier, on a demandé qui jouait le plus gros, j'avais beaucoup d'avis rennais, donc je m'intéresse au PSG ce soir. Pour vous, c'est pas obligatoire de gagner pour le PSG ce soir?
Non. Je sais, Greg, vous aimez vous projeter. D'ailleurs, il paraît que vous avez déjà demandé une augmentation pour la saison prochaine pour l'équipe de Greg. Donc, vous êtes en avance. Mais je pense qu'il faut pas aller plus loin que ça. Je trouve, et sincèrement, et Dieu sait que parfois, il est parfois cruel avec nous, Luis Enrique, qui fait des choix qui sont parfois étonnants. Mais honnêtement, sur ce que je ressens du PSG cette saison, c'est même le cas en Ligue des Champions. J'ai l'impression que Luis Enrique arrive à faire accepter beaucoup de choses, que ça soit de la part des supporters, de la part de la direction, et que ce soir, si Rennes fait un grand match, qui sont éliminés en demi-finale, il n'y aura pas un drame. Le club ne va pas s'écrouler. Il y a une sorte de confiance. Et honnêtement, Luis Enrique, une de ses plus grandes réussites depuis le début de la saison, même si tout n'est pas parfait, c'est qu'il a imposé son aura, vraiment, que ça soit à Poissy, au Parc des Princes, auprès des joueurs, même si c'est compliqué parfois avec Kylian Mbappé. Il est sur les bases de la construction de quelque chose qu'on a rarement vu, voire jamais, depuis qu'il y a un coach, depuis que les Qataris sont là. Donc il y a un climat de sérénité et de stabilité, et Dieu sait qu'il y a eu des tempêtes et qu'ils nous ont refait le coup d'encore inventer des choses en mode Netflix. Mais honnêtement, je ne crois pas que ce soir ça ait une importance. C'est un match important, voilà, mais ça ne sera pas un tremblement de terre et ça ne perturbera pas les joueurs pour le match face au FC Barcelone.
Ouais, Giovanni, il fait nuit là, faut lâcher le micro. Je vais faire écouter maintenant Pierre Maturana à la France. Non, mais vous avez été excellent parce que Giovanni, il les suit. Donc, Luis Enrique, personne, quasiment, et Loïc Tanzi qui vient, ne peut le sentir aussi bien que Giovanni. C'est intéressant ce qu'il nous dit, Pierre Maturana. Ce qu'il nous dit, il a cette aura, l'an 1, il y a un moment, quand ça se rapproche, que vous êtes à ça de décrocher la queue de Mickey là au manège et que vous allez le prendre si vous chutez en demi-finale, ils feront la tronche.
Vous faire la tronche. Alors après, ils ont la chance d'avoir encore une grosse échéance derrière qui s'appelle la Ligue des Champions et dans laquelle ils ont une voix qui est un peu plus dégagée que sur l'autre tableau. Donc il y a cette chose-là aussi qui va de toute façon rythmer la fin de saison. Ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est que c'est un des derniers matchs en jeu du PSG finalement, parce qu'en championnat, effectivement, ça roule tout seul. Et que là, ce soir, il va y avoir un peu d'intensité. Et un match de coupe, ça reste un match de coupe. Et face à une équipe qui est solide comme celle de Rennes et surprenante comme elle peut l'être comme celle de Rennes, forcément, c'est un test intéressant dans le jeu, parce que c'est aussi là-dessus qu'on teste le PSG cette saison. C'est sur le jeu. Souvent, on voit un PSG qui gagne en concédant beaucoup d'occasions, etc. Quelle sera la situation ce soir? Est-ce que Rennes va réussir à être plus efficace que tous les adversaires de Paris cette saison? Ça peut arriver aussi. Donc voilà. Après, sur l'aura de Enrique. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu quand même un discours de supporters, quoi. C'est un discours qu'on fait avaler aux supporters, et c'est normal parce que les supporters ont besoin de ça, et que c'est un storytelling qui est imposé un peu, qui était judicieusement imposé par la direction et Luis Enrique depuis le début de la saison. Mais on n'est pas obligé de l'avaler autour. C'est plus simple, effectivement, de repartir avec de la sérénité quand chaque été tu peux changer ton attaque, ton milieu de terrain, ta défense, etc. Donc il faut aussi voir ça.
Pardon, ouais. Mais là il y a une alerte.
Ça concerne le Paris Saint-Germain, un joueur qui n'est pas sur la feuille de match. Beraldo, il avait été expulsé face à l'Olympique de Marseille. On a la décision, il a pris deux matchs fermes, le défenseur brésilien. Voilà.
Ouais. Ça aurait pu être 3 ou 4, hein, ou 8. Ça sera
19, vraiment, ils ont parlé de 19.
Giovanni, comme tout à l'heure, vous devez rentrer au Parc des Princes. Je vous demande votre prono maintenant, puisque vous ne serez plus avec nous quand on le fera à 20h46-47 au moment de conclure l'émission. Giovanni, la France est suspendue à vos lèvres. Le score et la qualif ce soir de ce PSG Rennes.
Je pense qu'il y aura 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Et merci à Julien Stéphan pour cette compo d'équipe. Il y a peu de coachs qui osent faire ça au Parc. Bravo, on va se régaler.
Ouais, vous avez raison, et Charlotte l'avait dit en ouverture de thème. Swan l'a rajouté et nous on l'a redit. Vous faites bien de le rajouter. Ça devrait être un match spectaculaire. Merci Giovanni. Bon match. On vous retrouve tout à l'heure dans l'équipe du soir pour le débrief aux côtés d'Olivier Ménard et de toute cette troupe. 20h33. Avant la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt qui se prépare, voici le survivant. On joue. Question de rapidité pour savoir qui démarre, c'est essentiel dans un survivant. Le score d'hier au hasard. Oui, Raphaël, vous avez été le plus rapide.
Tu joues toi?
Ah, bien sûr.
Pourquoi je joue pas?
Bravo Raphaël. Trouvez-moi les 12 joueurs du Paris Saint-Germain, les 12 joueurs du Paris Saint-Germain ayant au moins joué 3 finales de Coupe de France sous QSI. 12 joueurs du PSG ont joué au moins 3 finales de Coupe de France sous le maillot du PSG. Qui sont-ils, Raphaël Sebaoun? Vous commencez.
Edinson Cavani.
Oui, il en a joué 5. C'est bon. On a pris le ding-ding, il est là. Donat Tremolinas.
Marquinhos.
Oui, c'est le co-leader. 6 finales de Coupe de France sous le maillot du PSG. Charlotte.
Ayrola.
2 finales de Coupe de France. Il n'a pas atteint les 3. Pierre.
Thiago Silva.
Thiago Silva, 5 finales de Coupe de France sous le maillot du PSG.
Marco Verratti.
Attendez, il faut que j'annonce votre nom. Il est tellement impatient, vous savez. C'est un enfant. Vous ne libérerez pas à la cantine plus tôt. Il faut aller jusqu'au bout. Oui, Marco Verratti, 4 finales de Coupe de France sous le maillot du PSG. Alicia.
Di Maria.
Di Maria, 6 finales de Coupe de France. On repart pour un deuxième tour. Tout le monde est là, sauf Charlotte. Raphaël.
Zlatan Ibrahimovic.
Ibra.
Sans blague.
Il n'a que 2 finales de Coupe de France sous le maillot du PSG. Ah, c'est là, faut que je vous regarde là. Benoît.
Blaise Matuidi.
Oui, 3 finales de Coupe de France sous le maillot du PSG. Pierre Maturana.
On peut se tenter un Thiago Motta peut-être.
Thiago Motta. Ah alors, Thiago Motta.
Oui, allez, 10-4 et on y va. Allez.
Thiago Motta, j'ai demandé 3 finales de Coupe de France.
C'est 3.
Thiago Motta, c'est 3. Bah, oui, on me connaît par cœur, Pierrot, bien joué. Swan Borsellino.
Maxwell.
Ah, Maxwell, 3 finales de Coupe de France. Bravo. Alicia Domi.
Julian Draxler.
Non.
Non, j'ai pas voulu le faire.
Si, vous voulez. En fait, le.
Julian Draxler.
Ah, c'est ça, moi, je voyage avec Alicia. Oui, 3 finales de Coupe de France. Félicitations.
On va tous survivre.
Attendez, c'est pas fini. tout le monde. Hey, vous pouvez finir le jeu.
Les être des champions.
Ça pourrait s'appeler Les Survivants, effectivement, Swan. Attendez, on va voir déjà Benoît Tremolinas. Je vous rappelle que derrière, on aura la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt d'ici une petite minute 30. Benoît.
L'avait dit.
Ah oui.
Ezekiel l'avait dit. Il n'a qu'une finale de Coupe de France avec le PSG. Pierre Maturana. Ah, je sais pas s'il y aura tant de survivants que ça.
Il y a des noms. Il y a des noms qui viennent.
Il en suffit d'un.
Je sais bien.
Disons un, je dis l'autre.
Il en reste 3 sur mon tableau. Hein. Et si vous êtes 3.
Et si c'était Jallet?
Christophe Jallet. C'est non.
Bah, c'est pas lui alors.
Non, c'est pas lui.
Bah, dis-le.
Oui, il y aura peut-être pas des. Il y aura peut-être 2 survivants.
Non, il en a.
Suffire pour le pluriel. Hein.
Il en a. Je veux dire un truc fou.
Swan.
Je vivrai avec Lucas Moura.
Lucas Moura. Il a 2 finales. Et donc, bonsoir Alicia Domi, la balle de match est pour vous. Pour que ce soit la survivante, vous voyez, il fallait peut-être changer.
Le karma.
Moi, j'ai aussi. Eh oui, il a fait le malin. Allez-y, pliez-moi ce
jeu. Attends, studio là.
Vas-y. J'aime bien là quand on me donne le 5. Ah, là, ça va arriver à un moment. Attendez, ne répondez pas avant que je dise un. 3, 2, attendez. 1,5. 1.
Mbappé.
Kylian. 4 finales de Coupe de France. Personne n'a dit Kylian Mbappé.
Voilà.
Mais vous êtes complètement dingos. Bravo Alicia. Musique des Oscars et musique de victoire.
Story, ça
bien sûr, bravo. J'étais ravi. Je ne vais pas dire Mbappé. Personne ne me dit Kylian Mbappé.
Pastore, ça rentrait?
Non, Pastore, ça rentrait pas. Il y avait Paredes.
Vanderbilt.
Et Colin Dagba. Mais on aurait pu se marrer avec Paredes et Dagba. Mais Mbappé, non, bien joué Alicia, ça gagne sur Mbappé. Alors l'autre il était là, oui le survivant, on va tous survivre. Je dis pas Mbappé. C'est le jeu Swan.
Personne.
Bravo Alicia, la vie est injuste, mais vous aviez
merci,
faim.
Grégoire.
Vous irez manger après la petite lucarne. N'hésitez pas à parler Alicia pendant que je suis. C'est la petite lucarne, c'est Pierre-Antoine Damcourt. C'est fou. C'est folle. Hein.
C'était pas mal.
Cadré, hein.
Ah
non, bah, elle est dissipée, elle est dissipée.
Bah, elle est contente en même temps. Moi, j'aime l'émotion.
J'ai dit cette victoire à Léo.
Ah oui,
oui là. On va pas sauter l'anniversaire de votre fils toutes les 15 minutes. Attendez, il va voir la vidéo plus tard. Bon anniversaire, Léo.
Voilà, bon anniversaire, Léo.
Maman était une formidable comédienne.
Oui, exactement.
Quand elle faisait de la télé.
Ah, exactement.
Il verra ça, elle aura 25 ans, on s'en fout.
Oui. Ils ont pas eu Mbappé.
Non, voilà. Bah si, Alicia.
Oui, Alicia. Exactement. Lundi, vous avez laissé les clés du camion à Benoît Coutier.
Oui.
C'était hyper sympa, hyper cool.
Ah bah
sauf que
moi.
Vous ne l'avez pas laissé nos noms à Béric Caloui et à moi. Vous n'avez pas laissé, non, apparemment, vous laissez que les clés.
La petite lucarne, parce que voilà, s'il n'y a pas Alicia, s'il n'y a pas Raph, l'équipe de la petite lucarne est bien là. Pierre-Antoine Damcourt, Béric Louis sont.
Allez, vas-y, hein. Damcourt, Béric Louis,
il a vraiment fait ça.
Ah bah oui, on n'a pas fait du doublage.
Il est fou ce David Cossé là. Hein.
Il m'avait appelé Swan Bolsonaro.
Oui, c'est
on n'est plus là, ça après.
On est sur le même personnage.
On n'est pas.
C'est de l'approximation.
carreaux.
Ah, bien sûr.
Vous faites du mal aux arbres, vous aussi, non? Ouais, c'est pas le même genre. Hein.
C'est pas ce que fait Pierre, apparemment. Incroyable.
On l'embrasse, bien sûr. Évidemment. Béric, Pierre, Louis, oui.
Béric,
en même temps, le mec a trois prénoms, hein. C'est un peu chiant.
C'est compliqué. Dans un instant, on parlera évidemment de la qualif de Lyon. 12 ans après sa dernière finale en Coupe de France, on aura aussi notre minute gonflette, Greg. Mais avant, il faut s'échauffer avant de transpirer.
Tour des terrains.
C'est important, c'est le tour des terrains. On y va, c'est parti. Direction donc des images de la Copa Libertadores.
Oula, il est beau.
On a vu un but de River Plate. Un peu gag, ouais, dans la tronche. Ouais. Par contre, celui-là, vous allez voir, il est somptueux. Vous la dire à fou ?
Il n'y avait pas de hat-trick aujourd'hui.
Il n'y avait pas de hat-trick, merci. Autre but somptueux, vous allez voir, on part dans le championnat suédois, ouais, parce que je regarde pas mal de championnats. Vous savez comment on dit championnat suédois en.
Skol.
Exactement, Skol.
Non, Skol, ça veut dire chin-chin, avec modération.
Aïe, avec modération.
Ah, j'ai collé des suédoises dans ma jeunesse. Ouais.
Pas mal. Et apparemment, d'ailleurs, le groupe vit bien dans cette équipe de volley.
Bon, alors, vous allez rajouter le bruit ?
Non, pas du tout. Ça fait celui-là. Regardez, l'humiliation ultime. Je pense que c'est ça. Tac. Ouh là là. Tiens, vas-y, prends la balle. C'est toi. C'est vraiment dur. Tiens, remets-toi debout. Et enfin, on est tombé sur le panier de basket un peu
non.
Mal. Ça va.
Enfin, ça va.
Faut fixer les trucs, hein, parce que nous, on adore s'accrocher.
Vous arrivez à atteindre un panier, vous ?
Non, jamais, ouais, jamais de la vie. 1m80.
Ça, c'est ce que vous mettez sur 1m80, le passeport. Okay. Vous mettez 1m80 sur le passeport, taille réelle, ressenti 1m80, ouais, taille réelle à 76.
C'est ça. Hier, Giovanni Castaldi était devant le Groupama Stadium. Alors, pour une fois, il n'avait pas froid. Giovanni, il avait pris sa petite veste, il était bien et tout. Ah, ben, il y avait un autre problème, une autre galère.
Ouais, c'est un poids du tout.
Ouais, c'était capillaire. Capillaire. Grosse galère capillaire. J'ai adoré ça. Ouais, regardez sa posture au soleil. Ouais, je suis quand même bien, je kiffe. Et Jérôme Marié, son caméraman, a bien cerné notre Giovanni.
Ah ouais, là ouais. Ouais. Je suis pas du tout coiffé là.
Ouais, pas du tout. Et Joe a eu un soutien inattendu d'un monsieur devant le stade.
Félicitations. Merci. Franchement,
c'est gentil, merci.
Vous
beaucoup.
Êtes le seul qui a toujours le sourire et beaucoup d'humour.
On essaye.
Et vous prenez toujours ça bien. Moi, des fois, je les envoie chier.
Ça, c'est un bon conseil, Giovanni. Ouais, il a raison. Les chier parfois.
Il a raison, Giovanni. Il est toujours souriant.
Toujours souriant.
Hyper agréable.
Mal coiffé, mais souriant. Giovanni, alors hier, Lyon s'est qualifié 12 ans après sa dernière finale de Coupe de France en battant Valenciennes, et une fin de match. Alors voilà, les supporters lyonnais ont envahi le terrain pour fêter ça. Certains disent que c'était too much. Bon, c'est vrai que c'était le dernier de Ligue 2, mais bon, moi je trouve que c'était pas too much. Franchement, un envahissement de terrain, c'est pas too much. Ce qui serait too much, c'est genre, imaginez les supporters, ils vendent un bout de pelouse sur eBay. Là, oui, ça serait too much. Ah ben ils l'ont fait, morceau de pelouse du Groupama Stadium, début des enchères, 20 euros.
Achat immédiat 100.
Ouais, mais le morceau est petit quand même.
Ouais. Non il a pas osé arracher vraiment.
Non. C'est sympa, l'air, il a pris ça, voilà. Et c'est parti, hein, à 32 euros.
Non,
ça va. Non, c'est pas
vrai. Bah tout cas, avec la pub que tu lui as fait, ça va.
Peut-être, on ne sait jamais. En tout cas, ce matin, évidemment, les supporters lyonnais étaient aux anges. Et les équipes de notre magazine Confession Sportive ont suivi Jérôme. Oui, il s'appelle Jérôme et il a passé une sacrée journée, notre GG.
Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Jérôme. Ce supporter de l'Olympique Lyonnais est sur un petit nuage depuis hier soir.
Ah ouais, depuis hier soir, je suis sur un petit nuage. J'ai vibré, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai même fait un envahissement. Alors,
Vous étiez au stade, vous avez envahi le terrain ?
Ah non, j'étais à la maison, j'ai envahi la chambre de mon fils, Juninho, il a 12 ans, il nous a jamais vu gagner, donc il arrête pas de dire qu'on est nul. Je suis rentré dans sa chambre, j'ai cramé un fumier, je l'ai jeté sous le plumard. Ça lui fermera son claque-merde à ce petit con. On est en finale, je vous ai dit ou pas ? Putain, je suis chaud, allez.
Jérôme a posé sa journée pour aller communier dans la rue avec les autres supporters lyonnais.
Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Hey.
Petit bémol, Jérôme habite à Paris.
Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Hey. Non ?
Et il a bien du mal à trouver des complices pour faire la fête avec lui.
On est en finale de Coupe de France, Lyon. Vous avez vu le but ? Regardez, la casette. Vous aimez le foot ?
Non, pas du tout.
Ah, ça vous a...
Absolument.
Ah, d'accord.
Malgré tout, Jérôme est un homme heureux, mais soudainement, sa joie est interrompue. C'est Guillaume, son voisin supporter de Saint-Étienne. Après ces quelques échanges d'amour et de politesse, Jérôme décide de nous faire découvrir sa nouvelle chanson.
Stéphanie Frappard, je crois pas que vous connaissez. SIF des pénaux, sorti de nulle part.
on a Stéphanie Frappard. On est en finale.
Fin de journée pour Jérôme, une journée pleine d'émotions.
Je peux vous dire que là, personne ne peut nous arrêter. En finale, on va rugir.
Tu casses la tête, toi. C'est très bien qu'on va vous démonter en finale.
Oh, aïe. Enfin, sauf si on a Frappard, hein. Ah, j'ai dit, faut y aller, je suis en retard. Ils me font peur, les Parisiens. Ça va aller pour
Bravo, Béric, et Pierre-Antoine Domecourt.
Il m'a défoncé l'épaule, Béric est costaud quand même.
Allez, on part. C'est un XL, le maillot.
C'est un XL, il est pas. On part à la salle, c'est la minute gonflette, c'est parti. Et regardez, numéro 5. Eh bien, elle a fait d'énormes progrès cette saison. C'est Alicia. Oui, vraiment.
Ouais, c'est elle.
Ouais, franchement, c'est balèze.
Oh, là,
non, mais ouais, il y a.
Vache, hein, elle est costaude.
C'est costaud. Il y a combien de chaque côté? 25 kilos, ça fait 50 kilos dans les jambes.
C'est banal.
Easy, c'est easy pour elle. C'est un jour normal à la salle. Numéro 4, c'est le mec du jury qui a eu une petite frayeur. Regardez juste devant.
Non.
Ah, il s'est dit, ouais, je vais me barrer. Moi, je me barre, ouais. Wouah, plongeon, c'est bon, il a évité le pire. Numéro 3, petite astuce pour se déplacer le coccyx en moins d'une demi-seconde.
Oh là là.
Non.
Aïe.
D'accord, voilà. Et là, normalement, c'est déplacé. Voilà, c'est pratique. Numéro 2, attention aux barres faucheuses. Oui, elles sont vilaines. Et numéro 1, regardez, les poids sont aussi diaboliques.
On regarde ça.
Puisqu'ils s'attaquent au téléphone portable.
Non, ah bah.
Mais attendez, c'est pas tout, parce que le truc il a. Ouais.
Ah ouais. Ah oui, il fume,
voilà, c'est un.
Et il vapote,
c'est un fumi téléphone.
Ah ouais. Mais il a craqué le fumi dans la chambre de Julie.
Et voilà, la chambre de Julie. Greg, on se quitte avec un joli geste technique qui aurait mieux été fait sur un terrain de foot que dans ce salon, je pense.
Non.
Aïe, le lustre.
A plus lampe. Merci à Pierre-Antoine Delcourt. Béric, vous voulez rester là pour les pronos?
Ouais.
Est-ce que vous voulez lancer les pronos des chroniqueurs pour le match de ce soir
PSG
Rennes?
Allez-y. Rennes.
Ouais.
Et je vais vous demander, alors c'est pas facile, hein, vos pronostics. Raphaël Sebaoun, je commence par vous.
On commence par
vous. Tu commences par vous. Allez, il va perturber.
De partout, parité au but.
Ah, c'est pas mal.
Benoît,
ah oui, faire ça. Benoît, 3-2 pour Paris donc. Charles, 2-2, victoire péno de Rennes. Ah, la belle cote.
Je vais pas.
De l'autre côté, on commence par qui, les copains?
Bravo.
Allez-y.
Allez, Pierre-Antoine.
Allez-y, c'est Alicia.
Long. Vous choisissez. Ok, 3-2 Paris.
3-2.
C'est marqué dessus, hein, Pierre-Antoine.
J'ai dit 3-2.
Vous avez problème de vue, non?
Oui, non. 2-2, PSG au tir au but.
Comme Raph.
Et 4-2.
Ouais, il y aura des buts.
Bon, Pierre, même des buts. Moi, je n'ai jamais mon avis.
Ah,
et vous, Pierre-Antoine?
Alors, c'est contracté.
Alors, moi, je vois Paris 1-0.
Très bien. Voilà. Nous allons prendre la direction de la cabine pour la suite.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il y a ce soir sur la chaîne d'équipe?
Ce soir, il y a du football avec un match de la Coupe d'Italie.
Exactement. Avec Johan Rioux. Il est là, Yo-Yo.
Oui.
Fiorentina, Atalanta, Bergame, Johan.
Ça, c'est vraiment un match, Greg. Mais en plus, on est avec Dave Apadou. Mais pour les connaisseurs, pour ceux qui aiment le football, le style, le match des Beasters, le match des Scouts, le match vraiment des espoirs, avec donc la Fiorentina et puis l'Atalanta. Et n'oublions pas que ces deux équipes vont participer au quart de finale des Coupes d'Europe. Puisque la Fiorentina va défier évidemment en Ligue Europa Conférence de Victoria Pilsen. Et vraiment, on attend l'Atalanta, peut-être l'exploit de l'année, peut-être contre Liverpool en quart de finale. On va se régaler. C'est un grand match. David Padoue et Choubouillant.
Oui, David Padoue et Choubouillant, mais vous l'avez encore une fois séquestré. On l'a pas entendu. On embrasse Dave. Merci Johan. C'est le match Jimster, les gars. C'est le match Discount. Incroyable. Voilà, vous restez sur la chaîne L'Équipe pour cette rencontre entre la Fiorentina et l'Atalanta. Le débrief de ce match-là et de PSG Rennes dans l'équipe du soir. On revient demain à un horaire habituel 18h30. Bonne soirée foot sur la chaîne L'Équipe. Salut à tous.